France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Suite de notre série sur Platon, aujourd'hui, analyse de son dialogue Le Gorgias qui évoque la puissance séductrice du langage et où Platon, à travers le personnage de Socrate, dénonce les illusions de la puissance. Platon est un philosophe grec majeur qui a écrit son œuvre dans la première moitié du IVe siècle avant notre ère. Et le Gorgias est un dialogue qui, dans la vie de Platon, appartient à la période dite de transition après le Protagoras et la République que nous avons évoqué dans notre premier épisode d'hier. Les sophistes, ces personnages de la démocratie athénienne apprenant aux jeunes gens à user de rhétorique pour conquérir de la puissance politique, eh bien ce sont eux les adversaires de Socrate dans ce dialogue de Platon. C'est un petit bijou, le Gorgias, dialogue très vif, où Socrate est confronté à de sérieux contradicteurs, mis en scène par Platon dans toute leur force déroutante. On y découvre en particulier le fameux Calliclès, dont il a souvent été dit que les arguments anticipait la pensée de Nietzsche. La puissance conquise par le langage, sans considération pour le vrai ni le bien, est-elle une valeur qu'on aurait tort de mépriser ? Platon n'est pas d'accord et son Socrate se bagarre pour montrer les illusions de cette puissance. Bonjour Anne Merker.
Bonjour.
Vous êtes professeure de philosophie à l'université de Strasbourg, spécialiste de philosophie grecque ancienne. Merci de nous avoir en amont aidé à penser cette série. Je n'oublie pas, nous en avons parlé il y a plusieurs mois, série sur Platon et la politique. Vos travaux sont nombreux, vous connaissez très bien aussi l'hommage rendu effectivement par Friedrich Nietzsche au XIXe siècle au personnage de Calliclès de Platon, et je renvoie à ce propos à votre traduction d'écrit de Nietzsche sur la rhétorique qui est publiée aux Belles Lettres. C'est là qu'on trouve l'hommage à Calliclès. Bonjour Marion Pollard.
Bonjour.
Pollard, comment voulez-vous que je prononce ?
Comme vous le souhaitez.
Ah bon ? Vous avez fait votre thèse de philosophie sur le lien entre connaissance et action dans la pensée de Platon. Vous êtes aujourd'hui chercheuse rattachée au Centre Jean Pépin à Paris, si j'ai bien compris. C'est une unité à la fois du CNRS et de l'École Normale Supérieure, spécialisée dans l'étude des doctrines antiques. Et bonjour Stéphane Marchand.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-1-Sorbonne, spécialiste de philosophie ancienne. Vous êtes en particulier l'un des tout meilleurs spécialistes français du courant philosophique qu'on appelle le scepticisme. Vous êtes déjà venu ici nous en parler. C'est un courant qui connaissait bien la force du langage, capable de détruire diverses vérités que l'on croit certaines. Vous avez traduit le Gorgias de Platon aux éditions Les Belles Lettres en faisant suivre ce dialogue de la traduction d'un texte de ce personnage, Gorgias, dont on va parler, penseur qui a bel et bien existé et qui a écrit notamment un éloge d'Hélène. Eh bien, je reste sur cette lancée. Stéphane Marchand, qui était Gorgias ? Je parle cette fois du personnage historique.
Alors, Gorgias était un rhéteur, probablement aussi un sophiste, dont l'importance était considérable à Athènes, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et il a formé un grand nombre d'aristocrates athéniens. En tout cas, les Athéniens se pressaient visiblement, c'est ce que nous montre le dialogue de Platon, pour écouter ces démonstrations qui faisaient montre d'une grande dextérité du langage, qui a aussi donc utilisé un grand nombre de figures de style, enfin voilà, qui dont le langage était très élaboré, qui a aussi une réflexion sur la nature du langage, donc dans l'éloge d'Hélène notamment, et ainsi que dans d'autres œuvres dont il nous reste encore de considérables fragments.
Est-ce que vous pouvez nous parler, donc Gorgias ayant vécu à l'époque de Socrate, donc c'est 5e siècle avant Jésus-Christ, de son traité du non-être, parce que ma question est un peu plus précise. Est-ce que finalement Gorgias est un sceptique, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que, comme Pyrrhon et ses disciples, que vous connaissez mieux que personne, vous en êtes un des grands spécialistes français, c'est quelqu'un qui pense que toutes les vérités peuvent être défaites par des arguments utilisant du langage.
Alors, le traité du non-être est un traité un peu complexe parce qu'il fait montre d'une grande sophistication d'arguments. On a l'impression qu'il répond à Parménide. Et en effet, dans ce traité, il renverse tous les présupposés qu'on suppose être ceux de la philosophie en affirmant que rien n'est. Si quelque chose est, ce n'est pas connaissable. Et si c'est connaissable, ce n'est pas communicable. Donc, on a cette logique comme ça, concessive, qui laisse penser qu'en effet, pour Gorgias, il n'y a pas de connaissance assurée possible. Et c'est quelque chose qu'on voit, alors, qu'on voit dans l'éloge d'Hélène aussi, avec cette affirmation que l'opinion maîtrise le monde.
Il anticiperait Pyrrhon, le pyrrhonisme, les disciples de Pyrrhon qui sont la grande école, la plus radicale du scepticisme.
Alors, en un sens, oui. C'est-à-dire que le scepticisme est lié avant tout à la suspension du jugement, donc à l'affirmation qu'en réalité, ni on sait, ni on ne sait pas, en fait. Et donc, c'est cette neutralité qui est propre au scepticisme. Le scepticisme, entre guillemets, de Gorgias est plus radical et plus fort, puisqu'il semble affirmer qu'il n'y a pas de vérité. Oui, je pense que c'est une préfiguration. D'accord. Qui va donner lieu à des élaborations logiques beaucoup plus importantes à partir de Pyrrhon et surtout de la Nouvelle Académie. Mais il y a un courant que je trouve commun, oui.
Marion Pollard, vous vouliez, j'ai vu réagir à cette présentation de Gorgias. Je parle cette fois du personnage historique.
Oui, bah alors c'est un personnage qui est très riche. À la fois, effectivement, il ouvre plein de possibles et un peu cette option en fait théorique que serait une forme de scepticisme radical. Et à la fois, il incarne quelque chose de très tangible qui est la puissance de la rhétorique et puis cette espèce de vraiment célébrité qui l'auréole. Et c'est auréolé de cette célébrité-là qu'il prend la parole en fait dans ce dialogue. Et je trouve que ce contraste, il est assez saisissant en fait entre effectivement ce sur quoi porte le langage et ce que lui va venir défendre, qui est sa puissance et ses effets très tangibles.
Anne Merker.
Oui, et je voudrais compléter ce que viennent de dire mes collègues. Gorgias a une position très particulière dans l'histoire de la rhétorique parce qu'il est vraiment celui qui lui a fait faire un saut qualitatif par l'innovation de grands procédés stylistiques. Et il a découvert d'une certaine manière que par le style, on pouvait donner une puissance propre au discours en prose, puisque dans l'Antiquité, le premier discours travaillé, c'est en fait la poésie. La poésie qui est très proche de la musique, qui a un rythme et qui influe sur l'âme par le rythme. On sait tous que, par exemple, un vers est beaucoup plus facilement mémorisable qu'une proposition qui n'est pas travaillée sur le mode de la versification. Et il y a toute une lutte comme ça, ou tout un combat, ou une conquête de la parole en prose pour essayer de s'approprier le pouvoir de la poésie, mais tout en restant de la prose. Et c'est ça la grande singularité de Gorgias, c'est d'avoir inventé alors des parallélismes, des assonances, des allitérations, et ça a fait un effet monumental, comme le rappelait Stéphane. Il a eu un énorme succès à Athènes, précisément parce que il y avait tout d'un coup cette forme de travail du style, de la beauté de la parole qui restait de la prose, mais qui a essayé de s'approprier la puissance de la poésie. Et tout ça a été ensuite réinvesti dans l'espace de la puissance politique et dans l'espace politique proprement dit.
Donc c'est un adversaire redoutable pour Socrate. On peut, en tout cas le Socrate de Platon, puisque Platon met d'abord en scène Gorgias face à son Socrate, dans le Gorgias, le dialogue. Suggérant d'ailleurs que Platon était peut-être très préoccupé par le traité du non-être de Gorgias ou par la quelque chose chez lui. Bon, alors je vais peut-être là me tourner vers Stéphane Marchand. Dans son éloge d'Hélène, le vrai Gorgias historique, c'est vrai qu'il ose des hypothèses extraordinaires grâce au langage. Par exemple, il ose imaginer que Hélène, enlevée par Paris à Ménélas, et c'est l'origine de la guerre de Troie, dit-on, en fait, a été violée, par exemple. Enfin, je veux dire, il défait des vérités, si j'ose dire, des vérités pas très solides.
Disons le procédé qui est impressionnant en effet dans l'éloge d'Hélène, c'est de mettre en phase tous les arguments qui permettraient de défendre Hélène, et parmi ces arguments, il y a en effet l'idée selon laquelle elle aurait été forcée, donc elle serait partie sans son consentement. Mais la plus grande hypothèse dans l'éloge d'Hélène, celle qui a impressionné et à mon avis inquiété beaucoup Platon, c'est l'idée selon laquelle elle a été convaincue par le langage langage et par le logos. Et le logos étant ce petit corps qui est un grand souverain, un grand tyran, permettrait donc de lui enlever la responsabilité en fait d'être parti avec Paris. Et cette hypothèse en fait laisse penser qu'au fond on peut tout faire avec le langage. Et étant tout puissant, sa norme devient non pas la vérité mais l'efficacité. Je pense que c'est la question finalement qui inquiète le plus Platon dans le Gorgias, de savoir qu'est-ce qui norme le logos. Est-ce que c'est sa seule puissance ou est-ce que le logos n'est pas au service d'une cause supérieure qui serait la vérité?
Marion Pollard, est-ce que on pourrait aussi planter le décor du dialogue le Gorgias en essayant de préciser, si on le sait, qui sont les deux autres personnages qui vont intervenir contre Socrate, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir Polos et Calliclès? Ils sont dans la maison de Gorgias. Sont-ils des disciples de Gorgias?
Alors, on peut le dire. En tout cas, on va dire que c'est trois interlocuteurs qui, quand même, viennent incarner une forme de défense de ce pouvoir du langage, de la rhétorique, et effectivement, dans sa proximité aussi avec la sophistique. À la fois, même si on peut dire qu'il y a ce lien un peu de disciples, ou en tout cas, voilà, presque un même camp, en fait, deux équipes qui s'affronteraient, on peut dire qu'il y a une progression dramatique et argumentative du dialogue qui fait que l'option que défend Gorgias est plus ou moins réfutée, en fait, par Socrate, ou en tout cas se retrouve prise dans une contradiction. En l'occurrence, la façon dont la rhétorique enseignerait ou pas la connaissance des objets sur lesquels elle permet de discourir. Et en fait, on a ce mouvement réfutatif qui vient, si on veut, faire se succéder les adversaires auxquels Socrate va s'affronter. Et donc, dans ce sens-là, il y a quand même des défenses différentes de la rhétorique qui succèdent, même s'il y a effectivement une continuité.
Anne Merker, est-ce qu'il faut dire que Polos, dont je crois qu'il a existé, hein, si j'ai bien
oui,
compris.
Oui, tout à fait, oui, c'est un disciple.
Calliclès, ouais. On est beaucoup moins sûr, on pense que c'est une
sans
invention.
Sans doute non.
Mais qui est très fort dans le dialogue.
Un personnage magnifique.
Est-ce que ces deux personnages, il y a une manière de les penser, ils prolongent Gorgias, ils sont des disciples toujours très, très, très talentueux, surtout Calliclès. Mais il y a peut-être une autre manière de lire, qui est qu'on part de Gorgias, mais tous Gorgias et Polos préfigurent en vérité ce personnage mythique, légendaire, inventé par Platon, qui est Calliclès. C'est lui qui porte l'essentiel, le plus grave des attaques contre la vérité au sens de Socrate-Platon.
Oui, c'est une très bonne question que vous posez, parce qu'il faut déjà remarquer dans la construction dramatique que le dialogue s'intitule Gorgias, mais Gorgias, en fait, c'est lui qui parle le moins. Et en quelque sorte, il cède la place, parce que le personnage de Gorgias, c'est quand même un personnage assez, je vais dire, un peu propre sur lui. C'est-à-dire, en même temps, il s'esbaudit devant la puissance de la rhétorique, mais il va quand même pas jusqu'à défendre la vie tyrannique, la puissance absolue, donc il reste quand même dans certaines limites. Et il dédouane la rhétorique en disant « Mais Socrate, si des gens utilisent mal la rhétorique, je n'en suis pas responsable, c'est pas le maître, l'enseignant qui en est responsable, c'est la personne qui utilise, de même qu'un couteau par exemple, voilà, on va pas accuser le fabricant de couteaux si un meurtre est commis avec un couteau. » Donc il reste quand même dans certaines limites, et on peut considérer, c'est des analyses qui sont faites souvent et que je rejoins entièrement, que il y a une aggravation en fait comme une révélation de la gravité de la rhétorique qui se fait passer pour quelque chose de axiologiquement neutre au départ, c'est-à-dire on peut l'utiliser pour le bien et pour le mal, pour la justice et pour l'injustice. Mais avec Polos déjà, on se rend compte qu'il y a en réalité un modèle de vie derrière qui est l'éloge de la vie tyrannique, et que la puissance de la rhétorique n'est pas neutre, qu'elle sert quand même une envie de tyrannie. Et il y a une aggravation avec le personnage de Calliclès qui est d'une franchise absolue, et Cully renverse totalement les choses en disant « Mais la vertu, c'est la vertu de l'homme fort, et la vertu, c'est pas la justice à laquelle la démocratie adhère, d'équilibre, etc. » Et on a une aggravation dans la franchise, et le personnage de Calliclès qui est sans doute, enfin moi je le considère comme totalement fictif, je pense pas qu'il ait existé.
Platon a inventé son meilleur ennemi.
Ben, je pense que Platon passe, il fait du théâtre, comme vous l'avez rappelé, et il a une théorie de la mimésis, de l'imitation, où il explique très très bien lui-même que quand on fait du théâtre, on donne la parole à ses personnages. Et quand on les fait parler, eh ben, on les fait parler comme ils pensent eux. Et d'une certaine manière, je trouve qu'il a mis régulièrement son propre talent au service de positions adverses, et les discours de Calliclès dans le Gorgias, ce sont des sommets de rhétorique et des sommets de sophistique.
Et peut-être que ça, puisque ça produit une impasse à la fin,
oui.
Ni Socrate n'est convaincu par Calliclès, ni Calliclès
tout
par
à
Socrate.
Fait, double
ça s'appelle une aporie pour les spécialistes, oui. C'est comme ça qu'on dit, l'impasse philosophique, souvent. Ça voudrait dire que oui, Platon a inventé son meilleur ennemi ou adversaire, mais pour le coup, que le langage, qui est l'objet même du dialogue, il ne peut que montrer son échec, y compris le silence ultime de Socrate, signifie quand même que la rhétorique échoue. Il n'y a, oui. a plus que par le silence qu'on peut le montrer à la fin.
D'une certaine manière, alors il y a effectivement, on peut dire, une double aporie, et je pense qu'on peut même aller, encore plus loin. Il y a une forme de double impuissance que Platon met en scène dans le Gorgias, parce que finalement, Socrate n'arrive pas vraiment, par sa méthode de parole dialectique, c'est aussi du logos, mais sur le mode dialectique, il n'arrive pas à faire changer d'avis Calliclès, qui est rétif et qui finit même par refuser de parler, donc par se mettre dans une forme de silence. Oui. Et inversement, Calliclès n'a pas du tout réussi à convaincre Socrate, à qui il faisait la leçon comme à un petit enfant, lui disant « Tu sais, Socrate, la philosophie, c'est bien, mais à ton âge, enfin vraiment, c'est pas sérieux, on fait ça quand on est jeune, et après on passe aux choses sérieuses. » Donc il y a une double impuissance du langage, du logos dialectique et philosophique pour contraindre ou pour persuader quelqu'un qui est d'emblée rétif et qui va le rester jusqu'au bout, comme Calliclès. Et il y a aussi l'impuissance de l'éloquence de Calliclès, qui a beaucoup d'éloquence hein, malgré tout, en tout cas au début, et qui ne fait pas bouger Socrate d'un iota. Et je trouve que cette double impuissance que Platon met vraiment en scène et très profonde, et même une sorte de retour aussi sur les limites de la philosophie elle-même.
Et ben voilà le programme de cet épisode d'Avec Philosophie dans une série consacrée à Platon. Nous parlons du Gorgias. Donc la logique que vous venez vous-même de dégager, c'est de suivre la chronologie de ce dialogue le Gorgias. On va entendre un passage où c'est Gorgias qui parle à Socrate. On évoquera un passage ou certains passages où c'est Polos qui lui parle, et on entendra bien sûr ces moments brillantissimes d'échange entre Calliclès et Socrate, l'apothéose du dialogue. Commençons par Gorgias et Socrate sur précisément le sujet de ce dialogue, la puissance du langage et de la rhétorique.
Je me demande depuis longtemps quelle peut bien être la puissance de la rhétorique, car elle m'apparaît à la regarder ainsi d'une divine grandeur.
Et encore, si tu savais tout, Socrate. Contenant, pourrait-on dire, toutes les puissances, elle les tient toutes sous sa coupe. Je vais t'en donner une preuve de poids. Il m'est déjà souvent arrivé de me rendre, avec mon frère et d'autres médecins, au chevet d'un de ces malades qui ne veut pas avaler son remède, ni se laisser inciser ou cautériser par un médecin. Alors qu'il ne pouvait, lui, le persuader, c'est moi, par la seule technique rhétorique et aucune autre, qui y suis parvenu. Suppose maintenant un homme versé dans la rhétorique et un médecin qui se rendent dans la cité de leur choix. S'il leur fallait s'affronter en parole devant l'assemblée du peuple ou dans n'importe quelle autre réunion, pour savoir lequel des deux il faut choisir comme médecin, j'affirme que le médecin ne compterait pour rien, mais que c'est celui qui est capable de parler qui serait élu s'il le voulait. Et en face de n'importe quel autre artisan, le rhéteur persuaderait la foule de l'élire lui de préférence, car il n'y a pas de domaine où il ne parle devant la foule de manière plus persuasive que n'importe quel artisan. Telle est la nature de cette technique et l'ampleur de sa puissance.
Puissance séductrice des techniques d'utilisation du langage, donc de la rhétorique, Marion Pollard, c'est ce que dit Gorgias, et il affirme qu'on peut tout faire avaler à une foule, surtout une foule d'ailleurs peut-être, mais apparemment à des individus isolés aussi. Comment Socrate va répondre?
Alors justement, c'est très intéressant. On est vraiment à un point de bascule, en fait, dans le dialogue, puisque, en fait, cette analogie avec la médecine fait intervenir la question des techniques. Et c'est une question qui va servir à Socrate à enfoncer un coin, si on veut, face à Gorgias, et à faire apparaître cette toute puissance proclamée de la rhétorique comme, en fait, éminemment problématique. Est-ce qu'il y a un véritable savoir derrière l'utilisation de ce langage? Est-ce que finalement il n'y a que du vent? Par exemple, dans l'exemple avec le médecin, est-ce que finalement c'est un poison, un placebo qu'on essaye de faire avaler aux patients? Et effectivement, il faut se rendre compte de la portée, en fait, là, de cette analogie-là. L'analogie avec la médecine, elle permet de montrer ce qui se passe quand on a une véritable compétence opposée à cette compétence d'un autre type qui se sert du langage. Dans l'arène politique, ça serait beaucoup plus difficile de trouver véritablement quel serait le bon remède. Prendre une décision politique, c'est toujours éminemment contestable d'une certaine façon, ou du moins, du point de vue de Platon, ce serait plus difficile, face à son lectorat, de montrer une décision politique évidente face à laquelle une forme d'imposture, en fait, se donnerait comme toute puissante et viendrait donner lieu, au contraire, à la décision inverse. Dans le cas de la médecine, on se donne les moyens, en fait, de voir que on peut vraiment faire accroire certaines décisions, que ce soit celle de prendre un remède ou de prendre une décision qui engage toute la cité, qui vont à contresens, en fait, de notre intérêt bien compris.
Donc c'est, est-ce qu'un jour, tout comme le patient peut finir par reconnaître que le médecin en sait plus que lui sur sa maladie, est-ce qu'à un moment, la foule, le peuple, quels que soient les mots, ce sont des mots très modernes là qu'on vient d'employer, les citoyens finiront par se rendre compte des illusions que agitent devant eux les spécialistes de la rhétorique? Socrate, il croit encore, là on est au début du dialogue, il croit que l'illusion se verra?
Alors, je pense qu'en faisant intervenir la notion d'illusion, on anticipe déjà, mais c'est ce que Platon nous pousse aussi à faire en construisant le Gorgias, déjà sur la fin. En fait, au cours de la conversation, c'est aussi la figure du tyran et aussi, en fait, la toute-puissance commune, finalement, continue, qui va du langage à celle du tyran. Et si on veut, je suis pas sûre que Platon soit optimiste sur le pouvoir de lucidité que la foule acquérerait. Mais en revanche, il montre aussi que, finalement, le pouvoir de la rhétorique se rend aussi esclave des opinions qui ont cours dans la cité. Et dans ce sens-là, il y a quelque chose de très ambigu et ça pose vraiment, c'est pour ça que je trouve que la question de l'illusion et de la puissance, c'est vraiment une très bonne façon d'aborder ce dialogue, parce qu'on se rend compte que peut-être que ce qui est tout puissant est en fait particulièrement esclave et peut se croire en fait à même de convaincre tout le monde, mais se rend aussi en fait tributaire des opinions qui ont cours et du type de puissance en fait qui sera reconnue dans la cité. Donc, alors c'est déjà, on rentre déjà dans
mais finalement ça c'est quelque chose qui va apparaître après. Alors Stéphane Marchand, vous avez traduit avec Pierre Ponchon le Gorgias, je tiens à le rappeler. Donc là on est au début. On pourrait se dire oui, bah Socrate il va déjouer cet argument. N'importe qui au bout d'un moment va se rendre compte que lorsqu'on utilise le langage pour dire des choses absurdes, eh bien ça s'effondre. Il n'y a que la vérité qui produise du langage vraiment convaincant. Est-ce que c'est une inquiétude malgré tout qui va s'installer peu à peu dans le dialogue, croître? Est-ce que Socrate est en train d'être encore stable, mais au bord d'être déstabilisé dramatiquement, parce que c'est quand même un dialogue, une mise en scène? Est-ce qu'on est à un point là de bascule?
Oui, je crois qu'en fait, Socrate est inquiet dès le début, parce que au fond de cette remise en cause, c'est la remise en cause de la démagogie. C'est-à-dire l'idée, pas tant que les rhéteurs peuvent raconter n'importe quoi, mais surtout ils sont très habiles en fait pour trouver ce qui va faire plaisir, enfin, ou ce qui va correspondre à ce qu'attend le peuple. Et donc finalement, le Gorgias a été écrit pour montrer que cette pratique qui pourrait paraître anodine, qui est la pratique de la rhétorique, qui est très implantée hein, dans les institutions athéniennes, cette pratique, en réalité, porte en elle le germe d'une violence et d'une injustice et d'une forme d'immoralité que les Grecs eux-mêmes ne sont pas prêts à reconnaître. Et donc, ça a été très bien dit tout à l'heure par mes collègues, cette fonction de révélateur consiste à chaque interlocuteur montre finalement ce que ça signifie. D'accepter la rhétorique, d'accepter ces pratiques-là. Et plus on avance, et plus, en fait, ça signifie des positions immorales que les Grecs eux-mêmes ne sont pas prêts à reconnaître.
Donc, mais l'immoral va peut-être gagner. C'est le problème du dialogue. C'est-à-dire que on est déjà en train de basculer, Anne Mercaire, vers le moment où Socrate se bagarre pour dire que les choses fausses soutenues par des bons rhéteurs ne valent pas, mais il voit bien que si, ça peut malgré tout gagner. Et donc il faut qu'il change d'argumentation, qu'il dise c'est une fausse puissance, une puissance pleine de servitude. Mais on voit bien qu'il est gêné. Est-ce que vous le sentez déjà à ce stade, Anne Mercaire?
Gêné, je dirais pas forcément qu'il est gêné, mais je dirais qu'il sent le danger. Ça, oui, comme ça a été rappelé, il sent le danger. Et peut-être pour répondre un peu de biais à votre question, je voudrais quand même souligner que dans l'extrait qu'on a lu, qui a été lu du Gorgias, Gorgias dit bien qu'il accompagne son frère. Donc là, qui est médecin.
Oui.
Donc là, il y a une articulation de la rhétorique où en fait la rhétorique accompagne un vrai savoir technique. Je voudrais juste faire sentir à quel point au début on a déjà les germes d'une possibilité d'une rhétorique philosophique. C'est-à-dire d'une rhétorique qui va être au service d'une vérité technique.
Donc bonne.
Et qui d'une bonne rhétorique. Et finalement, le Gorgias explore le danger de la mauvaise rhétorique, tout en ayant déjà posé les jalons d'une bonne rhétorique que Platon lui-même va pratiquer dans les lois.
Qu'il pratique déjà.
En fait déjà. Et même dans le Gorgias lui-même, à la fin, Socrate parle d'une rhétorique qui serait une bonne rhétorique mise au service de la justice, de la vérité, etc. Donc en fait, il y a inquiétude ou gêne, si vous voulez, ou je dirais presque d'une certaine manière dans le Gorgias, Socrate crève l'abcès. Voilà.
Il crève l'abcès. Et il semble gagner un moment. Moi, je vous avoue qu'il y a toute une partie centrale qui m'a toujours laissé perplexe. Bon, je ne suis pas une spécialiste de Platon, contrairement à vous. Et puis, j'ose parfois profiter de ces situations pour vous poser des questions que j'avais jamais osé poser avant. Mais il y a ce moment-là où il parle maintenant avec Polos, le disciple de Gorgias, et Socrate veut lui montrer qu'il y a certaines vérités qu'on ne peut pas réfuter. Et l'autre, il dit oui. Et par exemple, des vérités, moi je ne comprends pas très bien, je vous le dis sincèrement, bon, mieux vaut subir l'injustice que la commettre, ça je vois bien ce qu'on veut dire, c'est-à-dire que c'est tellement affreux d'être toi-même dans l'injustice que j'entends, mais il y a quand même beaucoup de gens qui n'entendent pas, manifestement, dans le monde. Et puis après, nul n'est mauvais de son plein gré ou volontairement. Oui, Paulos dit, bien sûr, Socrate a raison, nul n'est méchant, mauvais de son plein gré. J'ai envie de dire à tout ce petit monde, il y a quand même beaucoup de gens dans le monde qui sont méchants très très volontairement. Donc on a un drôle de moment, vous ne trouvez pas, Marion Pollard?
Ça dépend ce que vous appelez drôle, qui est déstabilisant, c'est sûr. Et je pense que c'est là où il y a aussi une forme de sincérité dans l'art d'écrire platonicien. On a dit tout à l'heure qu'il laissait vraiment la tribune libre, en fait, à Caliclès, pour aller au bout, en fait, de l'option philosophique que représente la défense de la rhétorique. Et de l'autre côté, on a un Socrate qui, lui aussi, va au bout, en fait, de son option théorique. Qu'est-ce que c'est que de penser que le soin de l'âme doit être premier? Et c'est absolument déconcertant, parce qu'on n'a pas les mêmes prémices. Mais si on acceptait, en fait, disons deux choses pour aller rapidement, mais que on souhaite son bien, avant toute chose, et ça, par exemple, c'est déjà beaucoup moins facile à réfuter, en fait, comme idée, et que d'autre part, l'injustice, et là, c'est effectivement sans doute beaucoup plus difficile à réfuter si on prend l'état de fait comme argument, que l'injustice fait du mal, en fait, à mon âme.
À
travers l'acte injuste que je commets.
Donc là, Paulos, il dit oui, t'as raison, Socrate.
Bon, mais il y a quand même l'autre. Il le dit pas si facilement.
Ah, bon.
c'est vraiment vraiment un travail de réfutation de la part de Socrate. En fait, vous avez prononcé un mot important à nouveau, c'est le mot de vérité. Socrate ne l'assène pas, simplement il assène pas une thèse comme une vérité, il soumet ça à l'échange dialectique. Et cette proposition, elle résiste à la réfutation et lui-même réfute la proposition adverse. Et il y a une analogie très simple, alors là pour le coup, qui est rhétoriquement très bien frappée, c'est que l'injustice est l'analogue de la maladie. Or, personne ne désire être malade au niveau du corps, ça nuit au corps. Mais l'injustice, c'est une forme de maladie dans l'âme et personne n'a envie d'être malade dans son âme.
Et personne et là, n'a envie d'être méchant. Alors là, nul n'est méchant ou mauvais volontairement. Alors c'est une autre chose que Socrate prétend démontrer. Et franchement, Paulos, à un moment, lui dit « Oui, tu l'as démontré, mais bon, c'est quand même très bizarre. »
Il le dit parce que il veut avancer, en fait, dans le dialogue, mais il est manifestement pas convaincu. En fait, Paulos. En réalité, le mode de réfutation dans le Gorgias, c'est la honte. C'est-à-dire le fait que commettre l'injustice soit préférable qu'il vaille mieux
subir que la commettre,
c'est quelque chose qui choque profondément Paulos. Mais Socrate va lui montrer, c'est ce que vous avez bien expliqué, accepter que l'injustice soit préférable, ce serait accepter que l'injustice soit bonne. Et ça, c'est quelque chose qu'un Grec ne peut pas dire socialement, en tout cas que ni Gorgias ni Paulos ne peuvent soutenir. Et c'est la raison pour laquelle ils sont obligés de dire « oui, tu as raison ». Et c'est ce qui va créer la colère de Calliclès.
L'entrée en scène de Calliclès, voilà. Qui lui va assumer d'être tout méchant volontairement, d'être injuste, et c'est un bien pour lui, c'est ça,
oui.
Stéphane Marchand ?
Oui, c'est-à-dire que Calliclès est celui qui n'a pas honte de dire finalement ce qu'il faut, c'est vivre selon son désir le plus impérieux, parce que les forts méritent d'avoir plus que les faibles. Et la différence entre Calliclès et Paulos et Gorgias, c'est que Calliclès en fait n'est pas un sophiste, et même je pense qu'il méprise fondamentalement ses sophistes et ses rhéteurs. En revanche,
il n'est pas un sophiste.
Et disons, il a une distance vis-à-vis d'eux. C'est un aristocrate athénien. C'est une invention, mais c'est une qui correspond peut-être quand même probablement à Alcibiade. Enfin, qui est une façon de montrer ces grands aristocrates en fait athéniens qui sont portés par une volonté d'eux-mêmes et de s'affirmer eux-mêmes. Et qui pensent légitime en fait de tout prendre, d'asservir le reste des hommes.
Alors on va tout de suite aller vers le passage célèbre où Calliclès assume de dire que tous les désirs, même insatiables que l'on a, sont légitimes, qu'on utilise à cette fin pour les remplir comme un tonneau, dit-il. À cette fin, pour se satisfaire, on peut utiliser tout et n'importe quoi, et bien évidemment le langage, la rhétorique, pour faire céder tout le monde. Socrate est quand même un peu perplexe, mais enfin c'est Platon qui écrit. Hein. Écoutez.
Allons, je vais te donner une autre image qui provient de la même école qu'il y a un instant. Examine en effet si tu dirais quelque chose de ce genre à propos de la vie de chacun de ces deux hommes, le tempérant et l'intempérant. Imagine que chacun d'eux ait beaucoup de tonneaux. Chez l'un, ils sont en bon état et remplis de vin, de miel, de lait et de beaucoup d'autres denrées variées, des liquides rares et durs à se procurer même au prix de beaucoup d'efforts et de difficultés. Cet homme, donc, puisque tous ses tonneaux sont bien remplis, n'a pas à s'en soucier ni à chercher à les remplir, et de ce fait, il vit en paix. Quant au second, il dispose, comme le premier, de liquides dont l'approvisionnement est possible mais compliqué, et comme ses récipients sont percés et abîmés, il est contraint nuit et jour de les remplir sans cesse, sans quoi il s'expose aux douleurs les plus intenses. S'il en va ainsi de ces deux genres de vie, persistes-tu à dire que celle de l'intempérant est plus heureuse que celle de l'homme ordonné ? Ai-je réussi par là, d'une manière ou d'une autre, à te persuader de reconnaître qu'une vie ordonnée vaut mieux qu'une vie intempérante ? Oui ou non ?
Non, Socrate. Il n'y a plus aucun plaisir pour celui qui a rempli ses tonneaux. Et c'est bien là, comme je le disais tout à l'heure, vivre comme une pierre. Une fois qu'on est rempli, vivre en n'ayant plus de plaisir ni de peine. Voici ce qu'est une vie pleinement agréable, déverser le plus possible.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Notre série de cette semaine est consacrée à Platon et à la politique vue par Platon, et nous parlons aujourd'hui de son dialogue génial, le Gorgias, et c'est un point culminant du dialogue qui vient d'être évoqué par une lecture. Non Socrate, dit Calliclès, ça c'est déjà, ça claque, hein. Non Socrate, tu as tort, l'intempérance des désirs, jouir de manière tout à fait immodérée est beaucoup plus intéressant, a beaucoup plus de valeur dans une vie que vivre avec modération. Je vous écoute, Anne Merker.
C'est un passage effectivement culminant parce que on arrive à la question fondamentale qui est la conception de la vie. Voilà, la conception du bonheur, du bien vivre. Et là, on voit une opposition frontale entre deux conceptions de ce que doit être la vie et de la manière dont l'être humain va accomplir son propre bonheur. Et on a un Calliclès qui prône l'idée que loin d'apaiser les désirs, on doit au contraire les exciter, les multiplier, les faire grandir, et que le modèle d'homme excellent qu'il se propose, c'est celui qui commence. Il y a un passage où il dit clairement, il commence par exciter ses désirs, par les magnifier, et ensuite il a la puissance de les satisfaire. Voilà l'homme puissant, l'homme fort, l'homme qui mène une vie désirable. Par opposition à Socrate qui prône une modération, d'ailleurs, qui existe dans la tradition, même j'allais dire populaire, en tout cas culturelle grecque, hein, rien de trop, qui est donc fait de mesures et de maîtrise relative de ses propres désirs, qu'on peut jamais totalement supprimer parce qu'on a des besoins, mais en tout cas une forme de tranquillité, nous vivrons en paix, etc. Pour Calliclès, ça ne vaut pas plus que la vie d'une pierre, autrement dit, ce n'est pas une vie, c'est être déjà un cadavre. Et on a, dans la lignée de ce beau passage sur les tonneaux, hein, les tonneaux qu'on vient d'entendre, très belle image, on a cette image préalable qui est sortie de la même école, en fait, finalement, du corps. Qui sait si vivre, ça n'est pas mourir, et si mourir, ça n'est pas vivre. Donc là, on touche vraiment à une conception philosophique de la vie qui est que peut-être le corps est un tombeau et que la véritable vie n'est pas de se soumettre à l'excitation des désirs corporels. Et là, c'est deux visions de la vie, dans le fond, totalement irréconciliable.
Et donc là, l'argumentation philosophique est impuissante.
Moi, je trouve, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais je trouve qu'elle atteint ses limites et qu'il y a vraiment une forme
de question de choix et pas de raisonnement.
Alors, en termes nietzschéens, je dirais presque que c'est une question de presque physiologico-psychologique, c'est-à-dire qu'il y a des types humains qui vont être spontanément portés vers un tel type de vie et que c'est pas avec du logos rationnel qu'on va modifier profondément cette structure presque psychique et physiologique. Calliclès, on le convaincra jamais d'adopter une saine modération, on le convaincra pas. Et ça pose la question là derrière de, à nouveau, l'impuissance face à des gens dont on n'a pas fait l'éducation, et on revient, comme très souvent chez Platon, à un problème fondamental qui est celui de l'éducation, et que la puissance du logos philosophique, elle doit s'adjoindre un programme d'éducation et non pas simplement de réfutation après que les gens aient déjà été formés.
Vous avez présenté et traduit un cours de Nietzsche quand il était professeur à Bâle, dans les années post-1869, à la fin des années 1870, malade, il va lâcher ce poste. Mais dans ces années-là, Nietzsche fait l'éloge du Gorgias, et en vérité de la position de Calliclès, si j'ai bien compris. Il écrit, puisqu'on parle de rhétorique, c'est quand même la question du langage dans le Gorgias, « Le plaisir du beau discours conquiert son propre espace, dit Nietzsche, où il ne croise plus le besoin. » Ça veut dire que oui, le vrai pouvoir du langage, c'est magnifique, c'est pour les gens qui ont des tonneaux crevés, des gens qui jouissent de la vie, qui ont des désirs immodérés. C'est ça qu'il dit. Alors, et là, ils savent ce que c'est que la beauté du langage qui nous fait vivre fantasmatiquement des choses immodérées.
Là, Nietzsche n'épouse pas hein, cette thèse en elle-même des désirs totalement débridés, etc. En revanche, il reste un adversaire de Platon, et dans ce sens-là, il est dans le camp de Calliclès, mais dont il ne partage pas D'accord. toutes les thèses. Il est dans le camp de Calliclès au sens où il s'oppose à un Platon qui nous présente le corps comme un tombeau et la vie présente comme une sorte de mort de l'âme, et la véritable vie de l'âme serait ensuite après le corps. Ça, il le défend. Mais le passage, l'histoire de l'éloquence grecque, il met en valeur le travail de Gorgias qui, justement, fait du logos rhétorique une puissance par soi. Pour autant, Nietzsche n'épouse pas la totalité des thèses de Calliclès.
Ah,
oui,
bon,
non,
merci.
Tout de même pas. Même si Deleuze a argumenté là-dessus, moi je trouve que ça continue de se défendre, il y a tout un passage plus loin dans le Gorgias où Calliclès exprime que la morale démocratique, c'est en fait la morale des impuissants, c'est la morale des faibles, ceux qui n'ayant pas réussi à acquérir la puissance édictent des lois pour en quelque sorte castrer ceux qui pourraient avoir plus, les dépasser, avoir plus qu'eux, etc. Comme si la législation était un mode d'égalisation qui permet de dominer, une domination des faibles, pardon, une domination sur les forts,
des forts par les faibles coalisés.
Là, il y a quelque chose où on peut avoir une lecture nietzschéenne, D'accord. même si c'est plus complexe, évidemment.
Stéphane Marchand, d'un point de vue politique, qu'est-ce qui se dit là dans le Gorgias ? Car hier, nous avons vu à quel point Platon est critique de la démocratie. J'ai l'impression que dans le Gorgias, ce n'est plus exactement le sujet. Puisque, comme vous venez de le dire, aussi bien Calliclès n'est pas un défenseur de la démocratie. Il est un défenseur même des tyrans forts qui savent utiliser la rhétorique pour gouverner tous les autres. Et face à cela, que défend Platon ? Pas la démocratie non plus. Qu'est-ce qu'il défend exactement ? Quelles sont les positions par rapport au régime politique qu'on entend dans le Gorgias ?
Là, j'ai l'impression que la position de Platon consiste avant tout à mettre Athènes face à ses propres contradictions. Et quand vous parliez du danger et de cette représentation-là, en fait, je pense qu'il faut rappeler toujours que les lecteurs de Platon savent qu'il s'est passé quelque chose. C'est que quand même Socrate a été assassiné ou condamné à mort par cette démocratie. Et donc, se rejoue toujours la question de savoir... Comment ça a pu avoir lieu et Platon incrimine les pratiques rhétoriques en fait grecques contre cette enfin dans ce processus. Alors j'ai l'impression que surtout ce que fait Platon dans le Gorgias, c'est montrer non pas en effet faire le procès de la démocratie grecque en tant que démocratie, mais montrer à quoi est arrivé Athènes et Athènes est arrivé à condamner Socrate à mort et alors qu'elle se présente comme un régime qui défend la justice, en réalité défend l'injustice. Et Calliclès est le révélateur en fait de cette situation-là. Donc c'est pas tant une critique de la démocratie que du grand pouvoir qu'on a donné à la parole dans les institutions politiques.
Donc l'idée que déjà présente dans la République, on l'a vu hier, la République le dialogue de Platon. C'est l'idée que si on est dans une situation démocratique, à un moment donné, des forts de type Calliclès, avec des visées tyranniques, vont gagner. Et donc Calliclès défend quand même l'État démocratique parce qu'il sait que les forts en feront leur miel.
Mais c'est ça l'intérêt en fait. Il y a toute une discussion pour savoir si Calliclès est réfuté. Moi, je pense qu'il y a des arguments quand même qui montrent la position de Calliclès est une position qui ne se soutient pas finalement. Et une dans les deux arguments, enfin, il y a l'argument en fait l'idée que au fond on peut pas suivre toujours son plaisir et prétendre être un aristocrate. Ça amène à des positions qui en fait sont pas soutenables pour Calliclès en tant qu'aristocrate. Et par ailleurs, cette idée, c'est la façon qu'a Socrate de montrer que cette histoire de fort et de faible est une impasse, puisque, comme vous le disiez, au fond, le peuple assemblé est plus fort que les aristocrates tout seuls. Et donc, Calliclès, s'il veut vraiment le pouvoir, il est obligé d'être démocrate. Et d'ailleurs, il est présenté comme étant l'amant de Démos. C'est un amoureux du peuple.
Tyran qui guette le bon moment en démocratie pour sortir du bois et ramasser la mise.
Exactement. Et c'est la raison pour laquelle il y a une coalition entre ces institutions-là et la rhétorique. Puisque dans ces conditions-là, il faut un instrument pour manipuler les foules.
Alors on va arriver à votre thème préféré, Marion Pollard. Le tyran qui a séduit tout le monde, est-il heureux? C'est une des questions. A-t-il des amis? Alors je vous propose d'écouter un autre passage entre Calliclès et Socrate qui pose directement cette question.
Il me semble que la plus grande amitié possible entre deux personnes est celle dont les anciens sages ont parlé quand ils disent que le semblable est ami du semblable. Qu'en penses-tu ?
Je suis d'accord.
Là où un tyran grossier et sans éducation est au pouvoir, s'il s'avérait que quelqu'un était bien meilleur que lui dans la cité, ce tyran, à coup sûr, ne le craindrait-il pas ? Et pourrait-il jamais être de tout cœur son ami ?
Tu as raison.
Il ne serait pas non plus son ami, évidemment, s'il s'agissait de quelqu'un de bien plus misérable, car le tyran le mépriserait et ne ferait jamais d'effort pour être son ami.
Cela aussi est vrai.
Pour ce genre de tyran, ne reste comme seul ami digne d'estime que celui qui voudrait obéir et se soumettre à ses ordres, puisqu'il a les mêmes mœurs et qu'il loue et blâme les mêmes actions que lui.
Donc cette fois-ci, la distribution des rôles, c'est que Victoire Mellet, de notre équipe qui a préparé en particulier cette émission, était Calliclès. Et Socrate, cette fois, est élu par Nicolas Berger, notre réalisateur, incarné par Nicolas Berger. Et donc, on arrive à quoi à la fin de ce petit échange ? Le tyran est seul, est malheureux ? Socrate a-t-il raison d'utiliser cet argument ? Calliclès, pour une fois, est-il convaincu ou va-t-il dire encore Marion Pollard une nouvelle fois « Non, Socrate, je ne suis pas d'accord avec toi ».
Alors non, Calliclès ne se laissera pas persuader par Socrate, mais on voit les difficultés, en tout cas, que sa thèse, poussée à bout, peut rencontrer. Et je pense d'ailleurs, pour revenir un petit peu sur cette question, un peu de l'impuissance, in fine, du logos, du dialogue aussi, et du discours en général, il faut quand même se souvenir aussi que nous, on est là pour lire Platon, et que de ce point de vue-là, il y a peut-être quelque chose comme la limite de ce logos-là, qui ne peut pas faire notre choix de vie, prendre cette décision même à notre place, ou venir démontrer jusqu'au bout, en fait, quel est le meilleur choix de vie, mais par contre, le langage peut nous amener à cette limite même qui nous met face à deux types de vie. Et là, dans ce texte-là, ce que Socrate fait apparaître, c'est ultimement ce qu'implique en fait le rêve de puissance que la tyrannie incarne. Et je pense que la question n'est pas seulement celle de la dégénérescence d'une démocratie en tyrannie au moment où le tyran va venir persuader la foule, mais aussi le fait que l'âme démocratique en elle-même a pour fantasme cette puissance qu'incarne le tyran. Et que quelque part, mettre tout le monde à égalité aussi les institutions démocratiques telles qu'elles le permettent, c'est aussi promouvoir ce désir de puissance que le tyran incarne par éminence, si on veut. Donc non, Calliclès ne sera pas convaincu, mais Socrate aura quand même les moyens de faire apparaître que vouloir cette toute puissance que semble incarner le tyran, c'est se condamner non seulement à la solitude, à la paranoïa en réalité, hein, vraiment, mais vraiment au malheur le plus grand.
D'accord, mais enfin, Socrate a quand même perdu. Il a défendu avant avec Polos, qui quand même avait un peu acquiescé l'idée que nul n'est méchant volontairement, il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Et puis finalement, il a un Calliclès qui dit « Ah non, mais moi je suis méchant, mauvais et injuste tout à fait volontairement. Je jouis de cette position, c'est mon choix de vie. » Et donc, Calliclès incarne la limite de la persuasion philosophique. Vous êtes d'accord, Marion Pollard, que Socrate, c'est-à-dire Platon qui écrit le dialogue, met en œuvre?
Oui, ça c'est vrai. Et je pense que, en fait, ce que aussi cet échec plus positivement peut porter, c'est la façon dont à la fin il nous appartient de désirer ou pas ce qu'incarne le tyran. Et malgré tout, d'éclairer tout ce qu'impliquerait ce choix-là. Mais c'est vrai, oui. Sinon, une fois que
dont
je
la
me suis décidée pour ce choix de vie,
la solitude.
Quelque part, je suis inébranlable, ou même c'est quelque chose qui m'appartient. J'ai tendance à le voir comme ça. Et c'est vrai que il n'y a pas besoin de trancher, en fait, si on veut, entre effectivement l'impuissance à laquelle on se trouve acculé quand quelqu'un est très sûr de son choix de vie et l'incarne jusqu'au bout, et à la fois notre capacité à problématiser, en fait, cette possibilité-là de la vie humaine.
Anne Mercaire, sur ce problème de la persuasion ultime qui est mise en échec, Calliclès incarne et même assume dans son langage le contraire de tout ce que dit Socrate.
Oui, vous avez vraiment raison d'utiliser le verbe d'assumer. C'est vraiment une pensée décomplexée, Calliclès, et il renverse même les valeurs morales. C'est-à-dire que vous avez dit, il assume d'être méchant, d'être injuste, mais il va encore plus loin que ça, puisqu'il bascule les dénominations, et ce que Socrate appelle être injuste, Calliclès dit c'est ça la justice.
Donc
revendique lui-même la vertu au sens de l'arrêté, de l'excellence, de la suprématie, etc. C'est ça la vertu.
Mais est-ce que Platon, finalement, montrant cela, mettrait en scène le fait que le Socrate, qui disait des choses comme mieux vaut subir l'injustice que la commettre, ça, a eu tort. Donc Platon montrerait dans le Gorgias que bien sûr que si, on est méchant volontairement et on adore commettre l'injustice.
Alors, je pense qu'il y a deux plans. En fait, Marion a déjà exprimé ma pensée. Il y a le plan vraiment des arguments pour nous lecteurs, philosophes, en tout cas je me mets dedans, où pour moi les arguments de Socrate sont parfaitement convaincants, c'est-à-dire je considère que sur le fond, il réfute en réalité Calliclès, même si c'est pas facile. Sur le fond, si je le regarde d'un point de vue théorique. En revanche, je persiste, Platon met en scène une impuissance. L'impuissance du discours philosophique, de la dialectique philosophique de Socrate, à convaincre Calliclès. Et Calliclès, je reviens à votre question, est récalcitrant jusqu'au bout, parce qu'il est totalement décomplexé et qu'il assume totalement une autre morale. Et c'est ça qu'il y a de... C'est en ça que moi je vois un dialogue nietzschéen dans le fond, en tout cas des éléments nietzschéens, c'est qu'on se rend compte qu'avec le personnage de Calliclès, Platon nous montre deux morales différentes. Et que finalement, la morale de Calliclès, elle a quand même sa cohérence. L'arrêté, la vertu, arrêté, le mot grec, arrêté, l'excellence, la vertu. La vertu, c'est l'homme fort, maître de magnifier ses désirs et de les imposer aux autres. C'est un mode de morale auquel moi je ne souscris absolument pas, mais ce mode a sa cohérence. Et Platon, moi je trouve ça vraiment remarquable de sa part, il met son talent intellectuel et surtout d'écriture pour montrer jusqu'à quel point ça tient. Mais il y a quand même Socrate en face de lui. Donc pour des lecteurs comme nous, disons majoritairement, on est avec Socrate, on trouve que Socrate réfute malgré tout Calliclès, mais c'est quand même pas si facile que ça. Et la preuve, Platon met en scène une résistance. Et la preuve historique, Socrate a été mis à mort.
Oui, ça c'est sûr.
Voilà.
Vous allez avoir le dernier mot, Stéphane Marchand, mais je reconnais humblement que l'impression que j'ai à la fin du Gorgias, c'est que la seule victoire de Socrate, c'est de dire, tu vois, Calliclès, le langage ne peut pas grand-chose, puisque tu ne m'as pas convaincu et je ne t'ai pas convaincu. Mais c'est la seule victoire.
Alors, moi, je suis d'accord sur le fait qu'il y a un échec du dialogue dans le Gorgias. Il y a une mise en, il y a des gens avec qui on peut pas parler en fait. C'est ça que ça veut dire. Il y a un moment où il y a tellement rien de commun en fait entre Calliclès et les modes de vie sont tellement différents, comme vous l'avez dit, que au fond il y a pas d'accord. Et à la fin, il y a ce moment très drôle où Calliclès ne veut plus parler et en fait c'est Socrate qui fait les questions et les réponses. C'est-à-dire, il dit à Calliclès ce qu'il doit dire. Et avant que ne s'achève le dialogue sur un mythe, qui est donc un moment où Socrate reprend la parole tout seul et produit une image donc pour dire ce qu'il faut penser. Donc je suis d'accord sur le fait qu'il y a une mise en échec du dialogue. Cependant, ce dialogue a quand même réussi à montrer quelles étaient, et mes collègues l'ont très bien montré, quelles étaient les conséquences en fait du choix de vie de Calliclès, oui, qui sont les choix de vie des Athéniens. Et donc, alors je ne sais pas s'il y a une cohérence à cette vie-là, il y a une réalité, c'est-à-dire de fait, visiblement, Platon est conscient qu'il vit avec des gens qui pensent comme Calliclès, et nous sommes entourés de Calliclès. Oui. Est-ce que c'est cohérent de vivre comme ça? Je pense que le dialogue, en tout cas, cherche à nous montrer que non. Et donc, au-delà de l'échec du dialogue, il y a quand même une sacrée performance morale, je sais pas comment dire, il y a une sacrée...
Sauf qu'il est quand même très cohérent, Calliclès, c'est ça le problème.
Moi je trouve qu'à la fin, au fond, dire qu'il faut assouvir tous ses désirs sans limite, au bout d'un moment, les exemples scatologiques que prend Socrate, Calliclès s'émeut et disant, mais pourquoi tu parles de ça? Et au fond, il n'arrive pas à il est lui aussi obligé de montrer que finalement, entre plusieurs plaisirs, il faut choisir. On ne peut pas réaliser tous nos plaisirs en même temps sans vouloir vivre comme un animal. Et ça, je pense quand même que quand on suit le dialogue, ça ne marche pas. Mais bon, voilà, c'est ma lecture.
Non, mais c'était passionnant. Vraiment, merci de cet éclairage à trois. Stéphane Marchand, Marion Pollard, Anne Mercker analysent à trois du Gorgias, ce dialogue de Platon qui est notoirement tenu pour un des plus extraordinaires et qu'on relie à l'infini. Je vous propose d'écouter à présent la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse au fait de prévoir et de prévenir. Voici le pourquoi du comment.
Comment distinguer la prévention de la prévoyance? Face aux risques de l'avenir, les humains ne doivent pas seulement faire preuve de prévision ou de prédiction d'un savoir qui permettrait de dire l'avenir aussi précisément que possible à l'avance, les humains doivent faire preuve d'abord de ce qu'on appelle la prévoyance. La prévoyance, ce n'est pas seulement la prévision ou la prédiction logique et scientifique de ce qui peut ou pas se produire. La prévoyance, c'est d'abord la réponse anticipée à l'avenir en tant qu'il est dangereux. C'est l'action qui, dès maintenant, nous permet de préparer, de prévoir, de mettre de côté des réserves de ressources face à des événements négatifs qui pourraient se produire dans l'incertitude relative sur l'événement ou non. Ainsi, dans La cigale et la fourmi est prévoyante, beaucoup plus que la cigale, parce qu'elle a mis de côté justement pour l'hiver. Elle a non seulement agi dans le présent, dans l'insouciance du présent, mais elle s'est rapportée à l'inquiétude de l'avenir. La prévoyance n'est donc pas exactement la prédiction. Bien sûr, elle s'appuie sur la prédiction. La fourmi fait appel, en un sens, au savoir ancestral, à la météorologie. Elle sait que l'hiver va venir, que la bise va venir. La cigale, elle, se trouve dépourvue. La cigale n'a pas prévu. La cigale n'a pas préparé l'avenir. La prévoyance est donc une fonction sociale, non seulement individuelle, mais collective, tout à fait fondamentale. Les êtres humains ne prévoient pas l'avenir seulement pour le connaître de manière théorique, comme un savant prédit la chute d'une pierre à l'endroit où elle va tomber. Les humains prévoient l'avenir pour des raisons pratiques. C'est tout à fait différent pour nous si la pierre tombe à côté de la maison ou sur la maison, si la pierre tombe sur ma tête ou se tombe dans le champ où elle ne peut blesser personne. La prévoyance est donc orientée vers l'événement négatif, appuyée bien sûr sur les ressources de la prédiction, mais d'abord sur la préparation et la compensation possible de l'événement à venir, sur la réponse possible à l'événement à venir, comme il y a un kit de survie dans les pays qui doivent affronter des risques très sérieux de tremblements de terre ou de tsunamis. Mais la prévoyance elle-même a des limites. Qu'on soit cigale ou fourmi, il y a des événements contre lesquels il ne suffit pas de prévoir à l'avance et de pouvoir se représenter à l'avance, en quelque sorte, des compensations, des ressources pour y faire face, qui seraient au fond disponibles en attente eux-mêmes dans un placard comme la trousse de survie ou comme le kit de secours que nous devons emporter dans des promenades, dans des environnements où des dangers sont déjà identifiés à l'avance. L'avenir est beaucoup plus dangereux qu'on ne croit, beaucoup plus imprévisible encore. Il dépasse les ressources de la prédiction, mais aussi de la prévoyance, de la prévision, mais aussi de ce supplément de prévision qu'est la prévoyance, qui n'est pas d'être voyant, mais d'être préparé. Alors comment faire quand l'avenir est encore plus difficile pour les humains qui le prédisent, qui s'y rapportent, qu'il est au-delà de la prévision et de la prévoyance? Il y a peut-être une seule solution, c'est ce qu'on appelle la prévention. La prévention, ce n'est pas seulement la ressource individuel, isolé face à un risque qu'on peut déjà prédire. La prévention, c'est plutôt le renforcement de nos capacités à affronter le négatif et le pire en général. C'est ce qui nous rend meilleurs individuellement et collectivement dès maintenant. Il se peut que nous devions passer aujourd'hui de l'âge de la prévoyance à l'époque de la prévention.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Nicolas Leroulé. Elle a été préparée en particulier par Victoire Mélé et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Anna Feulpin, Carla Michel, Nassim El Kabli, Corinne Amar. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.